vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, on est jeudi soir, donc il est 21h, vous êtes sur l'émission Zoom Écologie avec l'équipe Les Radioactifs et Les Radioactives, et donc nous accueillons ce soir Christophe Coutenceau et Anne Marchand pour le Giscope 93. Donc, pour reprendre peut-être une question pour tous les deux, comment est-ce que vous définiriez le Giscope en une phrase ou deux, et en même temps, quelle est votre fonction particulière, quel est votre rôle particulier dans ce dispositif du Giscope?
Bon, donc si j'avais à résumer le Giscope en une phrase ou en deux, je dirais que dans un premier temps, le Giscope rend visible les expositions aux cancérogènes dans le travail des salariés, et que deuxièmement, il les accompagne et il favorise leur reconnaissance en maladie professionnelle quand ils peuvent prétendre à ce droit. Et alors mon rôle dans le Giscope, au tout début, quand je suis arrivé au Giscope, j'ai été embauché pour faire un travail de recherche sur la prévention et travailler avec des préventeurs qui soient de la CARSAT ou de l'inspection du travail. Puis petit à petit, je suis devenu enquêteur, c'est-à-dire que c'est moi qui fais les entretiens auprès des patients du Giscope. Et donc je reconstitue leur parcours professionnel au cours de ces entretiens.
Alors moi, en deux phrases, elles risquent d'être les mêmes que celles de Christophe. Donc effectivement, c'est rendre visibles les expositions cancérogènes dans le parcours de travail. Et puis, c'est de rendre visibles les difficultés d'accès aux droits à réparation en maladie professionnelle qui font que les personnes ont au moins une double peine. D'une part, elles sont exposées aux cancérogènes dans leur travail et elles en tombent malades, et une maladie grave et mortelle. Et d'autre part, elles n'ont pas de reconnaissance de ce lien entre le travail et leur maladie, et pas de réparation entre guillemets, puisque cette réparation-là est réduite à une indemnisation. Alors après, ce que je fais au Giscope, moi je suis venue au Giscope pour travailler sur ce qu'on appelle le suivi des parcours de réparation. Et puis on a développé cette activité dans le cadre d'une recherche dite interventionnelle, donc qui n'était pas seulement de constater comment ça se passait et les facteurs de non-recours au droit, mais aussi d'expérimenter des points d'appui et des leviers pour favoriser la reconnaissance en maladie professionnelle, et de faire ça en collaboration, en partenariat avec la Caisse d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et un cabinet d'avocats spécialisé dans la défense des victimes des maladies professionnelles.
Alors sur la mise en visibilité de maladies qui étaient auparavant invisibles, de cancérogènes qui étaient auparavant invisibles, une fois que le recueil des informations a été fait dans le Giscope, quelles sont les procédures qui sont entamées? Est-ce qu'il y a des institutions particulières auxquelles vous vous adressez? Est-ce qu'il y a des modèles types dans l'action du Giscope à ce moment-là pour mettre en visibilité?
Alors donc, je rappelle, hein, le patient il suit une espèce de trajectoire dans le Giscope, donc il passe son entretien, ensuite son dossier passe devant une commission d'experts, et à la fin de l'expertise, les experts disent voilà, nous on pense que il aurait plutôt intérêt à déclarer sur tel tableau de maladie professionnelle, étant donné les cancérogènes auxquels il est exposé et la maladie qu'il a. Donc ils font cette préconisation, à la suite de quoi on fait un espèce de résumé de son parcours professionnel et des expositions auxquelles il a été soumis, qu'on envoie au service hospitalier qui, lui, pourra faire un certificat médical initial, qui est une pièce déterminante pour entamer l'entrée dans le parcours de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, en dehors des collaborations habituelles du Giscope, c'est là qu'on entre dans la collaboration avec la caisse primaire d'assurance maladie, puisqu'on va suivre le dossier, Anne va en parler après, hein. On va suivre le dossier du patient dans les arcanes de la sécurité, des services de la sécurité sociale. Éventuellement, et les avocats, les tribunaux, s'il y a contentieux.
Bah, j'ajouterais que la connaissance qui émerge de cette enquête-là, elle est restituée en premier lieu aux salariés. Donc lui, il a aussi un retour, il a un partage de connaissances qui est fait vers lui, il a un retour sur à quoi il a été exposé, à quel moment, quand, comment, pourquoi, avec l'idée que d'une part c'est normal de lui restituer cette connaissance, même si elle est un petit peu amère, mais ensuite c'est aussi ça qui lui permettra de pouvoir être acteur de sa démarche d'accès au droit. Ensuite, il y a ce qu'explique Christophe, je vais peut-être pas rentrer tout de suite dans l'histoire avec la sécurité sociale, mais si j'entends bien ta question, comme on est un dispositif de recherche-action, on est aussi un dispositif de recherche, donc on restitue ces résultats. Et on les restitue à la fois dans l'espace social, c'est-à-dire on fait des restitutions à la sécurité sociale, dans des séminaires de médecins du travail, auprès d'inspecteurs du travail, auprès de beaucoup d'acteurs concernés par la prévention, la réparation. Et en dehors de ça, on restitue aussi ces résultats dans l'espace académique. Et dans l'espace institutionnel, puisqu'on est, on n'a pas dit au départ, mais nos plus gros financements sont le ministère du Travail, la direction des relations du travail et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Est-ce que, par exemple, ces partenaires institutionnels, que ce soit le ministère ou le département de Seine-Saint-Denis, ont tiré des conclusions, cherché à mettre en place des dispositifs de prévention des risques professionnels, ou est-ce que ce sont des conclusions qui ne sont écoutées sans en tirer de conclusion?
C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. On peut la contourner?
Ce qu'on peut dire, pour être général, sans rentrer dans le cas particulier du GISCOP, c'est que, étant donné le principe de l'assurance maladie, qui a une réparation forfaitaire, qu'il y a une entente au début du XXe siècle sur les lois sur la reconnaissance en maladie professionnelle, et en fait c'est une espèce d'entente qui on peut l'analyser comme un espèce d'affaiblissement qu'on peut constater depuis cette période de la prévention. C'est-à-dire que puisque les gens vont être reconnus en maladie professionnelle, finalement, il n'y a pas tellement plus d'efforts à faire de la part des entrepreneurs. Et finalement, c'est un peu ce qu'on constate, malgré les directives européennes, malgré tout ce qu'on voudra. Il y a eu des cas de substitution de cancérogènes dans certaines entreprises, mais enfin, les attestations d'exposition vont disparaître. Et finalement, il y a eu des progrès indéniables dans un certain nombre de secteurs d'activité, où, par exemple, maintenant, les salariés mettent des appareils de respiration intégraux. Mais enfin, c'est plutôt rare. Et ce qu'on constate, c'est quand même que la prévention est le parent pauvre de la santé au travail.
Moi, je répondrai deux choses différentes. Une sur le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. En fait, là, on a affaire à un exécutif qui est politique, et nous, on a vu qu'en fonction, à la fois en fonction de la couleur politique de l'exécutif et en fonction des pressions budgétaires sur les départements, bah, effectivement, la politique n'est pas la même et l'investissement n'est pas le même. Mais il y a une période quand même où en Seine-Saint-Denis, on a pu, le GISCOP avec le Conseil général et tout un réseau, mettre en place un réseau départemental de prévention des cancers professionnels, qui a été à l'initiative de quelque chose d'extrêmement rare, qui est une intersyndicale de prévention des cancers professionnels. Et ça a duré ce que ça a duré, c'est-à-dire pas longtemps, puisque assez rapidement il y a eu les élections prud'homales, et l'intersyndicale, l'unité qui s'était construite sur les questions de santé au travail, s'est détruite autour des histoires d'élections prud'homales et de campagnes contradictoires. Donc ça, c'est une chose sur le Conseil général. C'est une collectivité territoriale qui est soumise à plusieurs rythmes. Le rythme politique, de changement politique, d'alternance politique, et aussi le rythme de la pression budgétaire que subissent les départements. Après, à l'échelle du ministère, je vais essayer de le dire vite, mais... il y a peut-être juste une anecdote, une illustration à prendre, c'est que le phénomène de la sous-déclaration et de la sous-reconnaissance des cancers d'origine professionnelle, enfin des maladies professionnelles en général, mais des cancers, il est à ce point reconnu qu'il est intégré dans la loi depuis 1996. Ça veut dire que depuis 1996, les lois de financement de la sécurité sociale intègre le rapport rendu par une commission qui est spécifiquement dédiée à évaluer le coût de cette sous-déclaration. Le coût de cette sous-déclaration, ça veut dire c'est ce qui pèse sur la branche maladie qui est financée par nous tous, au lieu de peser sur la branche accident du travail et maladie professionnelle qui n'est financée que par les employeurs. Et donc depuis 1996, tous les trois ans, cette commission elle rend un rapport où elle estime cette sous-déclaration. On en est en 17 ans à je ne sais plus combien de rapports, mais beaucoup. 7.
4 ou 5.
Non plus, enfin, je ne sais plus. 6. 6 rapports. Ces rapports, ils disent tous la même chose. Et dans ces rapports-là, le cancer occupe une forte place. Pourquoi ? Parce que si le cancer est heureusement pas la maladie, l'atteinte à la santé au travail la plus courante, c'est celle qui pèse le plus cher. Qui pèse le plus cher économiquement, qui pèse le plus cher socialement, et c'est en même temps celle sur laquelle on a quasiment le plus d'études épidémiologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, donc le ministère du Travail, il est capable de dire il y a de 14 000 à 30 000 cas de cancer chaque année qui sont liés au travail, et il est capable de sortir aussi des statistiques de l'assurance maladie qui disent qu'il n'y a que 2 000 cancers qui sont reconnus en maladie professionnelle. Et l'écart qu'il y a entre les deux, ben c'est ce que disait Christophe, ça illustre quand même une sacrée carence et de sacrées lacunes en matière de prévention.
Cet écart, donc, il est systématiquement constaté, mais il n'appelle jamais d'action de la part des pouvoirs publics.
Il y a beaucoup de volonté affichée, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de préconisations. Moi, j'ai repris tous ces rapports-là de cette fameuse commission, les préconisations sont quasiment les mêmes depuis 1996. Et pire encore, quand on fouille dans les archives historiques depuis le début de la loi 1919, il y a la même préconisation qui revient, c'est-à-dire on a un système qui repose avant tout sur les médecins, c'est-à-dire que c'est les médecins qui vont être les premiers éveilleurs, qui jouent un rôle fondamental pour éveiller la personne malade à l'idée que ça puisse être son travail qui est responsable. Et c'est les médecins qui doivent faire ce fameux certificat médical en maladie professionnelle sans lequel les gens ne peuvent pas s'engager dans un parcours d'accès aux droits. Et ces mêmes médecins, ils ne sont pas formés à la réalité du travail, ils ne sont pas sensibilisés au facteur travail comme étant un facteur pathogène, ils sont sur des schémas dominants où c'est les comportements individuels qui sont responsables des maladies, et surtout même s'ils ne sont pas sensibilisés à ça, ce sur quoi ils peuvent peser eux à leur place, et on comprend que ça leur donne plus de sens professionnel d'essayer de convaincre leur patient d'arrêter de fumer plutôt que de lui dire que il faudrait modifier l'organisation du travail dans l'industrie où il travaille.
Et puis pour revenir sur la prévention, en fait elle dépend de l'activité des acteurs qui gravitent autour de la prévention, qui sont les salariés de l'entreprise, les dirigeants de l'entreprise, puis le médecin du travail, l'inspecteur du travail, les inspecteurs des CARSAT. Et en fait, pour prendre des décisions concrètes de prévention, il faut que tous ces gens-là se mettent autour de la table.
Peut-être pour poursuivre sur ce point-là, justement, concernant les salariés et les représentants des salariés, très souvent dans les syndicats, les personnes, les militants qui se chargent des questions de santé au travail sont des militants qui sont un peu spécialisés sur ces questions, mais qui ne sont pas nécessairement au cœur des organisations syndicales. Est-ce que l'action du GISCOP a permis, dans certaines équipes syndicales ou dans certains syndicats, dans certains secteurs peut-être particuliers, que des militants prennent un peu plus en charge ces questions-là, ou du moins qu'ils prennent conscience des problèmes qu'il peut y avoir sur ces questions-là, ou favorisent des pratiques de prévention ?
Moi, je dirais qu'en fait, on fait le même constat que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que les interlocuteurs qu'on a dans les syndicats, et y compris au moment de l'intersyndicale qui a eu lieu en Seine-Saint-Denis, c'est souvent des gens qui sont assez isolés dans leur organisation syndicale. Alors après, tout ça, ça a déjà été étudié, analysé, etc. Et on voit qu'il y a une tension forte entre l'emploi et la santé. Et puis aussi... les questions de prévention, elles sont très présentes dans le code du travail, mais elles sont complexes aussi. Et les questions de réparation, elles sont dans le code de la sécurité sociale, qui est encore un autre cadre de droit. Mais effectivement, enfin, je sais pas, Christophe.
Ce qu'on pourrait dire, c'est pas forcément, on voit pas forcément ça dans le cadre de l'activité du GISCOP, mais par contre dans le cadre du réseau auquel le GISCOP participait à accès. On voit plutôt ce type d'action et d'évolution dans un autre dispositif qui est l'Association pour la prise en charge des maladies éliminables à Port-de-Boux, qui a la particularité de s'intéresser à un bassin d'emploi bien délimité. Et là, il y a des interactions avec les représentants syndicaux et les représentants des CHSCT pour vraiment prendre en charge des actions de prévention. Mais parce que justement, tous les acteurs sont autour de la table, pratiquement tous. Et alors malgré tout ça, et malgré, on va dire, une prise en charge quand même très efficace à la PCME, à la fois des salariés et puis donc de ces questions de prévention, il y a finalement, ils le constatent eux-mêmes, très peu de postes qui ont été assainis sur leur vocabulaire, c'est-à-dire des postes qui auparavant exposaient à des cancérogènes et qui désormais n'exposent plus à des cancérogènes. Donc ça démontre que quand même que c'est la prévention est un travail très très difficile. Parce que bon, la PCME, c'est une existence de ce dispositif de plus de 30 ans. Et ils ont des actions positives de réussite de prévention à leur actif, mais pas si nombreuses que ça.
Puis pour boucler la boucle avec ce bagagiste de Roissy, et pour dire aussi la difficulté des organisations syndicales, à Roissy, il y a une majorité d'activités qui sont sous-traitées, donc il y a une multiplication de petites entreprises.
Et juste une petite parenthèse, à Roissy, en gros, les chiffres, c'était 90 000 emplois, 45 000 sous-traités.
Et notamment la sécurité, les bagagistes, etc. Et ce bagagiste, pour réussir à trouver des collègues, on est monté plusieurs fois à Roissy, on a vu plusieurs responsables qui changent sans arrêt et qui sont eux-mêmes pris dans des contraintes et des fragilités telles qu'aborder la question des cancérogènes, c'était le bout du bout qu'ils pouvaient faire.
Est-ce que peut-être on a parlé de Port-de-Boux, est-ce que dans le cas de Saint-Nazaire les problèmes se posent de la même manière? Est-ce que le contact avec les élus CHS ou les syndicats reste difficile également, ou est-ce qu'il y a...
On a rencontré les représentants CHSCT. L'intérêt de l'étude qui a été menée sur le port de Nantes-Saint-Nazaire, c'est que elle s'est faite avec l'association et de façon très proche avec le syndicat qui représente les dockers sur ce port. Donc on a fait une journée de présentation du travail qu'il y aurait à faire pour l'accompagnement des dossiers en déclaration maladie professionnelle. On avait fait une séance d'une journée en invitant les représentants des salariés et les représentants syndicaux. On a eu effectivement ces représentants. Maintenant, est-ce que ils sont aujourd'hui vraiment au fait de ces questions-là? C'est-à-dire que quand on arrive sur ce terrain, notamment, il y a deux grands ports, hein, on va dire, sur deux grandes places dans le port de Nantes-Saint-Nazaire, c'est Montoire, parce que Saint-Nazaire est réduit à presque rien, et Nantes. On met de côté toute la plateforme concernant les hydrocarbures qui était en dehors de notre étude, mais qui correspond à 50% des marchandises qui viennent sur le port.
Tu parlais de la relation avec les syndicats.
Ce que je voulais dire, c'est que le port de Nantes est plus menacé en fait que Montoire, qui récolte aujourd'hui l'essentiel des marchandises. Et ça fait un certain temps, mais là, la marchandise se fait de plus en plus rare. Et donc, on a de façon prégnante la question qui se pose entre emploi et santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus pour les dockers de Nantes, c'est l'emploi. Ils ont participé de façon très active à l'étude. Mais ils ont beau savoir aujourd'hui qu'ils sont exposés à des cancérogènes, ce qui est important pour eux, c'est que le port survive.
Et c'est parfois, ça semble aussi important pour eux qu'on ne montre pas, qu'on ne rende pas visible trop fortement le fait qu'il y ait des expositions aux cancérogènes.
Tout à fait.
Alors, du coup, coup, il nous reste très peu de temps. Alors peut-être avant de terminer, on peut parler très rapidement des états généraux de la santé des travailleurs, juste pour faire un point très rapide, dire que ces états généraux se sont tenus mi-mars à la Bourse du Travail à Paris, et donc on réunit plus de 500 personnes sur deux jours, avec des associations spécialisées sur les maladies professionnelles, sur la reconnaissance des maladies professionnelles, des dispositifs tels que GSCOPE, des équipes syndicales, etc. Donc est-ce que vous voulez dire quelque chose peut-être sur ce qui ressort de ces états généraux et sur les perspectives éventuellement qui ressortent du côté du GSCOPE suite à ces états généraux?
Donc ces états généraux, il y avait plusieurs ateliers. Donc nous, on n'a pas participé à tous les ateliers. Il y avait notamment beaucoup d'ateliers sur les risques psychosociaux, la résistance aux nouvelles politiques managériales, etc. Donc moi, personnellement, j'ai participé aux ateliers sur le risque chimique et le risque physique, notamment. C'était très intéressant parce que il y a eu une expression d'équipe syndicale ou salariée, sans être syndicalisée, qui ont pu montrer leurs difficultés à parvenir à identifier le risque. Je me souviens il y avait des salariés d'une entreprise qui s'appelle Constellium, qui exposait à plusieurs produits chimiques, qui expliquaient que leur nez coulait, leurs yeux piquaient, ils avaient des réactions allergiques à beaucoup de choses, et que en permanence, quand devant le CHSCT, ils interrogent le médecin du travail ou l'employeur, on leur répond « vous inquiétez pas, vous risquez rien ». Et donc ils expliquaient toute la difficulté pour eux à trouver les outils, les moyens d'identifier. Et à côté de ça, d'autres témoignages justement sur comment d'autres équipes avaient pu faire ailleurs. Alors nous, ce que ça nous montre, ce que ça montre, parce que je ne peux pas parler au nom du GSCOPE, c'est qu'effectivement ce travail de mise en visibilité du risque cancérogène au travail, il est essentiel pour que déjà il y ait le doute qui se pose dans les équipes salariées. Et puis ensuite, qu'il y ait une mise en réseau. Il faut sortir des murs de l'entreprise ces questions-là, parce que si elles restent à l'intérieur des murs de l'entreprise, elles seront maltraitées, au sens où, dans le contexte de subordination et de contraintes dans lequel sont les salariés, ils n'auront pas de réponse à leurs questions à l'intérieur des murs de l'entreprise. Donc il faut des réseaux de mise en commun, de médecins du travail, d'inspecteurs du travail, de chercheurs, de chimistes, voilà. Okay.
Tu veux compléter?
Moi, juste pour conclure, mais sur le GSCOPE, mais pas uniquement sur le GSCOPE, mais cette modalité d'enquête qui passe par l'entretien des salariés, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose qui peut être fait un peu partout. Et il suffit de s'emparer de ce type de méthode. Et après, effectivement, en s'appuyant sur des réseaux de gens qui connaissent les expositions, on peut arriver au même type de connaissances.
D'accord. Donc on arrive à la fin de l'émission. Donc, merci Christophe Coutenceau et Anne Marchand de nous avoir présenté le dispositif du GSCOPE.
Eh ben, merci à vous.
Merci à vous.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flamme orange dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons non sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares. comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier, voudraient travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.